40.
Elles sont nombreuses, ces publications. On évoquera aussi Boeing dans un instant. D'abord quand même, John, un mot de l'indicateur, le principal du jour aux États-Unis, l'indicateur macroéconomique, les commandes de biens durables. Est-ce que l'incroyable dynamique américaine se confirme ?
Ah oui, Guillaume, cette incroyable dynamique avait été un peu douchée hier avec des PMI qui étaient en dessous des attentes. Et là, évidemment, tout le monde attendait les commandes de biens durables. Eh bien, tenez-vous bien, elles ont augmenté de 2,6% en mars après une croissance de 0,7% en février. Puis on avait un consensus qui était légèrement plus bas, 2,5%. C'est la plus forte progression mensuelle depuis novembre 2023. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est un peu dans les détails sur ces biens manufacturés, puisqu'on voit que cette progression est principalement due par les demandes d'automobiles et les avions de ligne, malgré les déboires de Boeing. Et si on exclut les transports, les commandes ont légèrement augmenté de 0,2%, mais globalement, c'est un très bon chiffre qui traduit toujours une belle vigueur économique américaine.
Effectivement, même si, Étienne, sur cette croissance américaine, on a certains discours un peu plus prudents désormais.
Ah oui, à commencer notamment par Jamie Dimon. Alors, John Plassard, vous allez me dire, c'est pas la première fois que Jamie Dimon est pessimiste, hein, encore lors de la publication des résultats il y a 15 jours, il était très prudent.
Oui, tout à fait. Et puis, il faut rappeler quand même que Jamie Dimon, qui est le CEO de JP Morgan, a toujours des discours assez forts. Hein. Il prévisait l'année passée que les taux d'intérêt américains seraient à 7%. Cette année, il dit qu'il peut aller jusqu'à 8%. Alors, il faut faire attention un petit peu à ce qu'il dit. Mais bon, c'est la plus grande banque du monde, donc il faut l'écouter. Il a dit que l'économie américaine était quand même incroyable et qu'elle se tenait d'une manière assez fortement malgré les taux d'intérêt qui ont été remontés abruptement. Et il dit qu'il faut se méfier. Il faut se méfier parce que il pourrait y avoir des pièges. Et l'un de ces pièges, tenez-vous bien, Étienne, ce serait potentiellement que on puisse voir tout d'un coup le prix du baril aller à $120 à cause des tensions géopolitiques que l'on a. Et bien évidemment, ça aurait un impact sur l'inflation et un impact sur les indices et l'économie. Donc faire très attention ici, attention à ce que Jamie Dimon appelle les pièges.
Effectivement, Wall Street ouvre en légère hausse, il y a une valeur qui gagne 10%. Tesla, après sa publication, plus 10 Tesla. Et le titre semble réenchanter les investisseurs. On va en parler dans une poignée de secondes, juste après avoir évoqué aussi la présidentielle américaine, John. On est à 197 jours du scrutin. Et toujours, même si Donald Trump, bien sûr, est très haut dans les sondages, toujours des incertitudes quand même quant à son destin judiciaire.
Oui, tout à fait. Et vous savez que c'est une histoire dont on parle énormément aux États-Unis parce que il y a une infime chance pour que Donald Trump aille en prison avant les élections présidentielles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les présidents aux États-Unis sont tenus d'être protégés 24 heures sur 24 par les services secrets américains. Donc, comment protéger un président, un ancien président en prison? Et donc, c'est la question qu'on se pose. On se demande s'il y aura des cellules spéciales pour Donald Trump et bien évidemment pour les services secrets qui devraient le surveiller. Ça paraît assez fou, mais c'est une question qui est très importante ici aux États-Unis parce qu'on craint bien évidemment qu'un Donald Trump en prison ait des problèmes à l'intérieur de la prison et qu'il y ait des problèmes à l'extérieur de la prison. Donc les services secrets sont sur les dents sur une potentielle passage à la case départ ou à la case prison, comme on l'appelle au Monopoly, de Donald Trump.
Il y a deux grands enjeux sécuritaires. Il y a les JO à Paris, puis si Donald Trump est en prison, comment on gère ça en termes de sécurité dans la prison? Bon, on n'en est pas là. On va suivre en tout cas la suite de cette campagne électorale, bien sûr. Mais ça fait partie, ça nourrit le débat là-bas aux États-Unis, au cœur effectivement de ce scrutin qui approche dans quelques mois désormais. Étienne, ce qui nous occupe en attendant, ce sont donc les nombreuses publications d'entreprises. Évidemment, le groupe était attendu au tournant hier soir. Tesla a annoncé ses résultats. Comment Wall Street réagit-il?
Eh bien, plutôt bien, puisque si le Nasdaq gagne 0,8% et surperforme les autres indices américains, c'est grâce notamment à Tesla qui gagne plus de 10%. Alors, John Plassard, les résultats ne sont pas spectaculaires, mais comme toujours, Elon Musk arrive à maquiller certaines mauvaises nouvelles.
Vous avez dit exactement, maquillé. Vous savez que les investisseurs s'attendaient au pire après. On a quand même eu une semaine, plusieurs mois, mais une semaine tumultueuse avec des licenciements massifs, avec des départs de cas, des baisses de prix, des reports d'une rencontre très attendue avec le Premier ministre indien. Eh bien, tenez-vous bien, ils ont été, en tout cas, apaisés aujourd'hui parce que, apparemment, le ralentissement de la croissance devrait s'arrêter avec la sortie d'un véhicule à bas coût qui coûterait, alors on n'a pas beaucoup de détails, hein, mais environ 25 000 $, donc c'est environ 20 à 22 000 euros. Évidemment, Elon Musk a refusé de fournir des détails sur ces modèles. Il a consacré la majeure partie de la conférence de presse hier à parler de l'intelligence artificielle, de robots humanoïdes, de l'exploitation de véhicules autonomes, tout ça basé sur des logiciels, Étienne, tenez-vous bien, qui ne sont pas encore totalement développé. Donc un gros nuage de fumée qui permet au titre de rebondir, notamment sur des rachats de short, bien évidemment.
10% la hausse de Tesla effectivement aujourd'hui. Une autre valeur qui peut-être elle convainc plus structurellement, Texas Instruments dans les semi-conducteurs. C'est vrai que tout le secteur est porté. On voit Paris STM en tête du CAC 40. Texas Instruments qui a donc publié gagne 5% en ce moment, John, à Wall Street.
Oui, tout à fait. Anticipation. Alors, les chiffres sont plus ou moins en ligne, mais on a des anticipations de chiffre d'affaires et de bénéfices qui sont en hausse. Donc, c'est les signes d'une reprise de la demande pour les puces analogiques qui sont utilisées, il faut le rappeler, dans l'électronique personnelle, dans l'automobile et puis aussi l'industrie. Donc, on voit que pour l'instant, on avait eu certains commentaires d'analystes ces dernières semaines en disant qu'on arrivait sur le bas du cycle des semi-conducteurs. Et apparemment, si on écoute le message de Texas Instruments, eh bien, ce fameux cycle serait en train de reprendre. C'est une très bonne nouvelle pour les entreprises, notamment européennes, et vous l'avez dit avant, Guillaume, STM et notamment Infineon en Europe, qui bénéficient de ce message extrêmement positif.
Ah oui, et ça fait du bien après la semaine dernière qui était très très compliquée pour ce secteur des semi-conducteurs. Effectivement, ils retrouvent du poil de la bête. On va beaucoup en parler tout au long de l'après-midi, bien sûr, dans BFM Bourse. Et puis, il y a un titre, un feuilleton qu'on continue de vous faire vivre. Effectivement, Boeing, que d'incidents sur les appareils de Boeing depuis le début de l'année. Eh bien, Boeing, Étienne, a publié ses résultats.
Et c'est apprécié puisque vous avez un titre qui, avec Visa, est la plus forte hausse du Dow Jones, plus 2% pour ce titre Boeing à $172. Alors bon, malgré tout, le titre perd toujours 30% depuis le début de l'année, John.
Oui, tout à fait. Puis on a vu une baisse du chiffre d'affaires de 8%. On est à 16,57 milliards. C'est la première baisse du chiffre d'affaires depuis 7 trimestres. Hein. Je vous rappelle quand même que Boeing a été contraint de ralentir sa production. Mais ce qui a été pris et ce qui est pris aujourd'hui du côté positif, c'est ce qu'on appelle la consommation de trésorerie, qui était de 3,9 milliards contre 786 millions il y a une année. Et en mars, Boeing avait annoncé que cette consommation de trésorerie serait entre 4 et 4,5 milliards, 4,5 milliards, et on est à 3,9. Il faut rappeler aussi ici qu'on a le directeur général qui va partir à la fin de l'année et qu'on a toujours une demande qui reste forte. Mais, parce qu'il y a toujours des mais avec Boeing, eh bien, nouvel épisode aujourd'hui en Afrique du Sud. On a un Boeing qui a perdu une roue au décollage avant d'entamer un atterrissage de force en Afrique du Sud. Et donc, évidemment, la confiance des voyageurs et la confiance des acheteurs continue d'être marquée par le fer rouge.
Oui, et c'est terrible pour Boeing parce que sur les réseaux aux États-Unis, il y a cette blague qui court et qui circule. Je ne sais pas si elle est parvenue jusqu'à vous, John ou Étienne. Vous savez ce que ça fait, le bruit d'une roue qui se détache d'un avion? Ça fait boing, boing quand ça rebondit sur la piste. Boing, boing. Bref.
Je n'avais pas entendu.
Ben voilà. Merci beaucoup, John, de nous avoir accompagnés.